Bonjour. C'est Glissando sur Graphite 94.9 FM, votre émission de musique classique et pas que. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous aimez cette émission et que peut-être vous aurez l'occasion de liker. Comme ça, ça me dit si je continue dans cette même voie. Mais aujourd'hui, je vous emmène au cinéma. Nous allons écouter, découvrir des œuvres classiques qui se trouvent dans des films que vous avez certainement vus. La semaine dernière, je vous parlais de Mozart. Et nous avons écouté d'ailleurs plusieurs de ses œuvres. Alors ce matin, on va retrouver Mozart, tout en douceur. Car une de ses œuvres figure dans le film qui s'appelait Elvira Madigan. Alors, ce film était un film suédois, réalisé par Bo Widerberg. Et il est sorti, alors il y a un peu longtemps, c'est vrai, en 1967. Ça se passait en Suède, en juin 1889. Le jeune comte Sixtin Spar, passionnément épris d'une artiste de cirque danoise, Elvira Madigan, abandonne femme et enfant pour vivre avec elle. Bien sûr, cette aventure scandalise la société qui les pourchasse puis les condamne. Cette histoire, en fait, était basée sur des faits authentiques et fort célèbres en Suède. Alors, pour justement, faire entendre un peu de la musique de ce film. Vous allez entendre justement l'entente du concerto pour piano et orchestre de Mozart pour Elvira Madigan. Thank you. Vous venez d'écouter l'andante du concerto pour piano numéro 21 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'andante, donc, c'est le mouvement lent du concerto. Chanson de style avec un compositeur qui s'appelle Gioachino Rossini, italien, bien sûr, avec ce nom. Il est né un an après la mort de Mozart. Mozart est mort en 1791, et lui, Rossini, est mort en 1792. Voilà, on va y arriver. Et il est né à Pesaro, donc en Italie. Il compte parmi les grands compositeurs d'opéra du XIXe siècle. Son père était trompette de la ville et inspecteur de boucherie. Une double vocation qui a sans doute beaucoup, beaucoup influencé Rossini sur l'amour qu'il portait à la gastronomie, jusqu'à écrire des pages culinaires portant le nom de certains de ses opéras. Boucher de la pie voleuse, par exemple, ou bien la tarte Guillaume Tell. C'était un gastronome, un bon vivant, aimant les jolies femmes, dégustant les vins fins et rares. Sa cave était d'ailleurs légendaire. Il était aussi auteur d'un livre de cuisine. Rossini avait sa table attitrée à la Tour d'Argent, chez Bofinger du côté de la Bastille, et à la Maison Dorée, où le chef Casimir Moisson lui aurait dédié sa fameuse création, le tourne-dos Rossini. En rentrant au restaurant, il serrait systématiquement la main du maître d'hôtel, du sommelier, des serveurs, avant d'aller à la cuisine saluer le chef, et enfin il passait à table. Ah, c'était un sacré personnage, ce Rossini. Alors pourquoi je vous parle de lui ? Parce que je voudrais parler de la pie voleuse. C'est un opéra qui suit de très près un mélodrame de boulevard, basé sur un fait divers réel. En 1817, deux auteurs français, Daubigny et Caignès, remportent un grand succès avec « La pie voleuse » ou « La servante de Palaiseau », en s'inspirant d'une erreur judiciaire aussi étonnante qu'affligeante. Une servante est injustement condamnée à mort pour de menus larcins, dont la coupable n'est autre qu'une pie. La ville de Palaiseau institua une messe appelée la messe de la pie, en mémoire de la jeune fille. Et comme nous le relate Stendhal, qui souligne qu'avec cette affaire, un Allemand aurait fait une œuvre résolument dramatique, alors qu'un Italien fait de la belle musique sur un sujet abominable. Cette pie voleuse a été en fait donc utilisée pour un film Orange Mécanique. Orange Mécanique est un film britannique de science-fiction qui fut réalisé en 1971 par Stanley Kubrick d'après le roman éponyme d'Anthony Burgess, écrit 10 ans plus tôt. Il s'agit d'un classique de la science-fiction dans la lignée de Star Wars, 2001, l'Odyssée de l'espace, Retour vers le futur. Alors son synopsis, son histoire. Au XXIe siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l'emploient comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité. Donc, pour Orange Mécanique, je vous propose l'ouverture de la pie voleuse, une des plus vivantes et des plus splendides ouvertures de Gioachino Rossini. Ah, cette pivoleuse de Rossini, vraiment. Ah, bah, ça nous donne la forme, hein, dès le matin, comme ça, quand on entend une musique aussi vivante, aussi formidable. On va continuer donc dans nos grands thèmes de cinéma et nous allons trouver un univers plus calme, plus voluptueux, avec un compositeur qui s'appelle Samuel Barber. C'est un compositeur américain. Il est né en 1910 à Westchester et mort en 1981 à New York. Et il a écrit beaucoup de symphonies et il est essentiellement post-romantique. Il disait « Mon but est d'écrire de la bonne musique qui sera compréhensible par le plus grand nombre d'auditeurs. » Alors Samuel Barber est issu d'une famille de musiciens. Il commence le piano dès l'âge de 7 ans, s'essaie à la composition. À 14 ans, il entre au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Il devient professeur d'orchestration. Il intègre plus tard l'Académie américaine de Rome. Il compose sa première symphonie, dont la création va le faire remarquer au Festival de musique contemporaine de Salzbourg. Mais c'est grâce à une œuvre de musique de chambre que Samuel Barber accède à une notoriété mondiale. Sur les conseils de Toscanini, un grand chef d'orchestre, il arrange en 1938 le second mouvement de son quatuor à cordes pour orchestre à cordes. Ça devient l'Adagio de Barber, qui devient ainsi une des œuvres les plus populaires au monde, régulièrement jouée même lors de funérailles officielles. Cet Adagio est entendu dans le film « The Elephant Man ». Ce film est un film américain, réalisé par David Lynch, sorti en 1980. Ce film est fondé sur l'histoire réelle de John Merrick, l'homme qu'on disait l'homme éléphant. Le pauvre homme, il était difforme, il ne parlait pas, il avait très très peur des gens et il était montré dans les foires à l'époque comme une bête sauvage. C'est terrible pour cet homme. Et il a justement un médecin qui a voulu le prendre en charge et bon, qui s'est un petit peu occupé de lui, mais le pauvre, il est quand même mort assez tôt. Et c'est vrai qu'il ne pouvait pas avoir vraiment une vie normale, j'ai envie de dire, avec sa difformité. Voilà. Donc, pour The Elephant Man, il y avait justement cet adagio pour cordes de Samuel Barber qui était mis dans le film et nous allons l'entendre par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dirigé par Leonard Bernstein. Thank you. on comprend dans cet adagio pour cordes de Samuel Barber ce qu'a pu vivre en fait ce malheureux homme éléphant, comme on l'appelait, difforme, qui voyait tout le monde se moquer de lui. Voilà, c'est vraiment, ça reflète vraiment bien la tristesse, le mal-être de ce pauvre homme. Nous allons passer à Maurice Ravel, compositeur français du XXe siècle, un des plus grands compositeurs français d'ailleurs. Il est né à Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz. Il a grandi à Paris, où sa mère basque et son père, qui était un ingénieur suisse, sont installés dès son enfance. Ravel débute le piano à 7 ans, sous l'œil attentif d'un père enchanté de voir l'un de ses deux fils se destiner à la musique. Ses professeurs successifs remarquent son esprit vif et créatif. Il suit des cours de piano, d'harmonie au Conservatoire de Paris, et ses premières œuvres révèlent déjà une forte personnalité originale et affirmée. La danse occupe une place centrale dans la production de Ravel. En 1912, la collaboration avec Diaghilev et les ballets russes donne naissance à l'un de ses chefs-d'œuvre, Daphnis et Chloé. C'est également pour un ballet, à la demande de la danseuse Ida Rubinstein, que Ravel composera en 1928 son œuvre la plus célèbre, le Boléro. Il disait d'ailleurs à propos de son œuvre : J'ai toujours pensé donner à cette œuvre le titre Enfonce bien ça dans la tête. Particulier. Ce Boléro de Ravel a été utilisé dans plusieurs films. Alors, par exemple, dans le film Les uns et les autres. C'est un film qui retrace l'histoire de trois générations, unies par l'amour de la musique et de la danse, de l'entre-deux-guerres aux années 1980 dans quatre pays, la France, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis. La famille russe, dans cette histoire, là, l'histoire commence en 1936 à Moscou. Tatiana danse le boléro de Ravel devant un jury qui désigne la première danseuse du Bolchoï. Boris Itovitch, un membre du jury, en tombe amoureux. Tatiana échoue, mais elle épouse Boris. La guerre survient, tuant Boris. Leur fils Sergueï sera un grand danseur. Certains traits de sa vie font penser au célèbre danseur étoile Rudolf Nureyev. Alors avant d'écouter ce boléro que vous connaissez certainement et qui est une œuvre culte presque, je dirais, je vous invite à aller au cinéma. Justement pour voir ces jours-ci le film Divertimento qui est sorti et qui parle en fait de la vie de deux jeunes femmes, en fait des jumelles, Zaya Ziouani et Fethouma, sa sœur. Donc Zaya, elle joue de l'alto et Fethouma joue du violoncelle. Mais Zaya, elle veut devenir chef d'orchestre. Et pour une femme, c'est déjà difficile. Mais en plus, elle est d'origine algérienne et ils habitent la Seine-Saint-Denis. Alors vraiment, c'est très difficile, mais ce sont deux filles qui sont vraiment, qui ont une volonté féroce, j'ai envie de dire, et qui arriveront à devenir, elles sont actuellement, l'une est chef d'orchestre et l'autre est violoncelliste et joue en soliste. Donc c'est vraiment formidable. Donc nous allons écouter ensemble le magnifique boléro de Ravel. Thank you. Eh bien, c'est sur ce magnifique boléro de Ravel que Glissando vous dit à la semaine prochaine.